Michel Seguin, auteur encore un auteur de livres que je recommande, donc Autopsie de l'école républicaine, en grand ici. Je me souviens que Michel Seguin m'avait fait l'honneur de m'envoyer son manuscrit alors qu'il cherchait encore un éditeur, et j'avais été très frappé, j'avais lu ce manuscrit, et j'avais été très frappé d'y trouver beaucoup de choses que je n'avais lues dans aucun autre livre sur l'école. Michel Seguin est professeur de mathématiques, mais exerçait d'autres métiers, je crois, avant de devenir professeur de mathématiques. Donc, un point de vue original. Et voilà, j'avais lu plusieurs dizaines de livres sur l'école, des livres qui dénoncent la situation actuelle. Mais dans ce livre-là, il y avait des choses qui étaient complètement nouvelles pour moi et très éclairantes. Voilà, donc je vous laisse la parole.
Mesdames, messieurs, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est celle de quatre élèves du collège où j'enseigne les mathématiques. C'est l'histoire de Mamadou, Fatoumata, Madi et moi-même. Mon collège est situé dans un quartier populaire de la périphérie parisienne, dans un quartier d'immigrés venus d'Afrique, et ses prénoms sont très répandus. Ces quatre enfants, je les vois pour la première fois au début du mois de septembre 2006. C'est leur premier jour au collège, ils entrent en sixième, ils ont 11 et 12 ans. Mamadou dessine remarquablement bien. Pendant les interclasses, fièrement, il montre à toutes ses créations de bandes dessinées qui racontent des aventures extraordinaires. Je note qu'il fait ses dessins sur du papier blanc et qu'il parvient à tracer sans repère des cadres impeccables dont il varie les tailles et les formes par souci d'adapter le format de chaque scène à l'instant de l'histoire qu'elle raconte. Quelques cours suffisent pour constater que Mamadou a des capacités exceptionnelles de travail et de compréhension des mathématiques. À chaque contrôle, il obtiendra aisément une note supérieure à 18 sur 20, note qui compare d'ailleurs à celle de Karen, une autre excellente élève de la classe. Quand je rends un devoir, chacun de ces deux l'inquiète avec autant la patience, sa propre note que celle de l'autre. Mamadou aime l'école. À ce propos, je dois vous dire que, contrairement à une idée répandue, l'immense majorité des élèves en début de 6e aiment l'école, et ça, quel que soit leur niveau. Par exemple, comme beaucoup d'autres, Mamadou adore lever le doigt pour répondre à une question, ou bien pour en poser une autre. Par exemple encore, cela vous surprendra peut-être, et comme beaucoup d'autres, il aime bien quand je passe en toilette pour vérifier le travail fait à la maison. Mamadou est également généreux, il aime partager, et il explique volontiers à ses voisins, ce qui le rend d'ailleurs très populaire les jours de contrôle. Enfin, Mamadou a la chance, immense dans un quartier comme celui-ci, d'être grand et bien bâti, ce qui lui permettra d'entretenir sans danger de bonnes relations avec les professeurs. Sans danger, c'est-à-dire sans se faire insulter, menacer et frapper par d'autres élèves en récréation. D'ailleurs, quelques autres élèves sérieux, mais de petite taille, profiteront de cette aubaine en se plaçant sous sa protection. Majid, lui, ne dessine pas, mais n'écrit pas non plus. Dès les premiers cours, je sens chez lui une réticence à sortir ses cahiers, et déjà je dois me battre et écrire ce qu'il faut écrire. Sans doute est-il un peu paresseux. Pourtant, il n'hésite pas à lever le doigt pour proposer des solutions et semble plus disposé à participer. Au début, il le fait même avec enthousiasme et intérêt. Un peu farceur, le renommé drôle et gentil sourit toujours, mais souvent, il est doté d'une imperturbable bonne humeur. Cela ne durera pas. Je comprends très vite que sa réticence à écrire est bien naturelle, puisqu'il ne le peut pas. C'est-à-dire qu'il écrit très mal, très lentement, et en transcrivant la phonétique. Son maniement et sa compréhension du français, la seule langue qu'il connaisse, sont si faibles que, par exemple, il lui est très difficile de seulement recopier une phrase comme « deux droites perpendiculaires à une troisième droite sont parallèles entre elles ». Ou alors, il doit le faire lettre par lettre, ce qui lui demande de longues minutes et qui ne lui évite pas de faire des fautes. Cette phrase est incompréhensible autant à l'écrit qu'à l'oral. J'ajoute que cette simple phrase n'est pas non plus facile pour beaucoup d'élèves de 6e aujourd'hui. Ils se demanderont, par exemple, pourquoi on dit « une troisième droite sont parallèles ». Mais l'école est précisément là pour ça, pour enseigner aux élèves ce qu'ils ne savent pas. Une telle phrase est une occasion de travailler sur leur compréhension, avec l'objectif de les amener progressivement à des formulations de théorèmes ou de propriétés plus élaborées. En revanche, un problème insoluble se pose quand cette phrase est, pour quelques-uns, un obstacle qu'ils sont obligés de contourner. Car bien sûr, j'explique avec un dessin, je fais un dessin au tableau, je montre du doigt et la propriété peut être intuitivement comprise par Magic. Mais il ne pourra ni la formuler comme on veut, ni l'appliquer dans des configurations un peu vagues. Je préviens les élèves qu'ils auront le lendemain une interrogation écrite dans laquelle ils devront ce matin, elle ne dessine pas non plus les amis. Donc, c'est-à-dire au moins deux personnes qui peuvent faire, qui parlent d'un seul déchu et les mots contrariés. Fatima Diop n'a jamais fait aucun effort de travail. C'est vrai que c'est la littérature des enfants. Fatima Diop n'a fait aucun effort de travail. Elle est plus attentive en classe, très bavarde, et son travail à la maison est bâclé. Sans être catastrophique, ses notes sont très insuffisantes. Il me semble pourtant qu'elle n'a aucune difficulté particulière, sinon le manque de sérieux. Et je voudrais l'amener à plus d'exigence pour elle-même. Je décide de la surveiller avec insistance, de la suivre de plus près, de la contrôler davantage, et en quelques semaines, ses résultats s'améliorent effectivement. Mais Fatoumata est fragile. Elle réagit beaucoup trop vite et beaucoup trop facilement aux petits jeux d'agression verbale de ses camarades de classe. Je dois vous préciser que dans ces quartiers-là, le passe-temps favori d'élèves qui ne sont pas très scolaires, c'est les insultes. Donc pour ce jeu, il faut trouver une bonne victime, c'est-à-dire un élève qui réagit vite et fort. Les réactions rapides et disproportionnées de Fatoumata en font une cible parfaite et les incidents sont fréquents. Depuis, si la tendance à me tenir tête à contester, je dois donc fréquemment désamorcer le moindre début de conflit en arrêtant mon travail. Enfin, Mohamed. Mohamed a sans aucun doute la plus belle écriture de toute la classe. Il rend toujours des travaux extrêmement soignés. Il écrit très bien, mais lentement, avec beaucoup d'application et peut-être aussi un peu de difficulté. Il ne m'avarde jamais, il suit toujours les indications de ses professeurs. Jamais non plus il ne lève le doigt, peut-être par peur d'apporter une réponse fausse, peut-être par peur de poser une question stupide, ou peut-être par timidité. Ou peut-être tout simplement parce qu'il n'a rien à dire. Et il faut préciser, à ce sujet, au sujet de la qui n'a rien à dire, que c'est un défaut, d'après les savants du ministère de l'Éducation nationale. C'est un défaut d'autant plus grave qu'il constituerait une entrave à l'apprentissage, mais Mohamed apprend toujours parfaitement cette fin. Et ses excellentes notes obtenues aux évaluations écrites lui assurent une moyenne dont il peut se vanter. Je m'occupe peu de Mohamed, très peu, car ma priorité sont de faire régner le calme, de mettre au travail des élèves réfractaires et d'encourager les plus faibles. J'ai de plus beaucoup à faire avec les deux ou trois magies de la classe qui, submergés par leurs difficultés, ne veulent pas occuper la position de l'élève, ne veulent pas ne le faire pas. Il faut prendre le temps de les rappeler à l'ordre parce qu'ils n'ont pas sorti leurs affaires, parce qu'ils n'ont pas écrit leur son, parce qu'ils ont oublié leur cahier, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, parce qu'ils n'ont pas de quoi écrire, parce qu'ils n'ont pas de compas, pas de crayon, pas de gomme, pas de règle. Ils se servent directement chez leurs voisins et créent des incidents. Donc il faut prendre le temps de redonner les punitions, donc de les noter sur un papier, puis de les ramasser au poursuivant, de les augmenter si elles n'ont pas été faites, de les noter à nouveau, de tenir à jour toute une comptabilité, parfois d'écrire une convocation pour leur retenue et d'écrire un mot pour les parents. Il faut aussi mettre fin à leur querelle, leur demander de se taire, de ne pas éclater de rire, de ne pas se lever, de ne pas dire de grossièreté, de jeter leur chewing-gum, d'enlever leur casquette, d'enlever leur manteau. Parfois, il faut prendre le temps d'en exclure un, donc de rédiger un bulletin à cet effet. Donc, je précise qu'en ce moment, les bulletins d'exclusion sont de plus en plus compliqués à remplir. Donc, c'est pour dissuader les enseignants de l'exclure absolument. Donc, bref, tout ce temps dans une classe dite normale occupe entre 10 et 15 minutes de chaque cours. Alors, ça va être fastidieux, mais il y a 55 minutes entre deux sonneries. Les élèves mettent 5 minutes à arriver dans la salle et s'installer. Il faut faire l'appel à chaque heure de cours. Alors, ça signifie que le seul temps qui est consacré donc à 2 ou 3 élèves qui ne peuvent pas suivre représente près de 30% du temps dévolu à tous les élèves. Alors, j'insiste encore, c'est comme si dans une classe normale, une classe ici, on va dire une classe qui pourrait être dans un collège de ce quartier, c'est comme si l'année scolaire se termine au mois de mars. Et encore, je n'occupe pas le temps nécessaire pour leur expliquer plusieurs fois ce qui a déjà été compris, supposons que ça fasse partie vraiment de la classe. Ainsi, vous comprendrez qu'aucun professeur ne peut avoir de temps disponible pour Mohamed, puisque Mohamed est silencieux, puisqu'il est attentif en cours, puisqu'il arrive en retard, puisqu'il fait son travail consciencieusement à la maison, et puisque ses résultats sont bons. En fait, personne ne se soucie de Mohamed, parce que Mohamed n'a pas quelque chose à dire en toutes circonstances. Et c'est ça dont accusera le conseil de classe. On lui reproche de ne pas participer. Et de ne pas s'intégrer à la classe. Les semaines et les mois absents, je donne encore et toujours une trop grande partie de mon temps et d'attention à ceux qui sont en grande difficulté. Alors, il y a beaucoup d'enseignants, donc l'expression en grande difficulté, on la connaît. En grande difficulté, c'est un code, ça veut dire que l'élève n'est pas au niveau, il ne sera jamais. On met en écrit en grande difficulté. On ne met pas que la difficulté, on réflexion sur les exigences de travail. Je les accorde par faiblesse. Je sais donc s'il y a une empathie régnante, je suis emporté contre mon gré et comme tous mes collègues par ce détestable courant d'eau tiède de la réussite de tous. Pour m'impulser par un ministère et une bonne conscience générale l'un et l'autre, aussi aveugle que de bonnes intentions. Malgré cela, inexorablement, les écarts se creusent et les lacunes de certains se confirment sans surprise aucune, définitivement insurmontables. Au bout de quelques mois, la participation et la bonne humeur naïve de Majid se sont mis en isolé de résistance. Ses résultats sont pires qu'alarmants et il tente d'échapper à cette humiliation en montrant responsablement qu'il provoque délibérément ses notes et qu'il ne s'en soucie pas. Ce sont deux mensonges, mais c'est la seule façon pour lui d'éviter l'humiliation, d'échapper aux moqueries auxquelles il s'exposerait s'il continuait à montrer sa bonne volonté les premiers jours. Il sait que cette bonne volonté le mènerait au même résultat, mais que ceci serait encore alourdi par la honte de faire de son mieux. Comme s'il avait lu les discours des ministres de l'Éducation nationale, comme s'il connaissait par cœur leurs directives et leurs recommandations, Majid se rattrape en considérant que le collège, ce n'est pas que du travail, c'est aussi un lieu de vie. On y trouve donc des rapports humains qu'il faut examiner à la loupe, des conflits qu'il convient d'analyser en détail, des élections de délégués qui sont de la plus grande importance, de la violence verbale ou physique dont il faut parler longuement, et des ordres de vie de classe qui consistent d'une part à se plaindre de l'école en général, et d'autre part à parler de soi en particulier et de son rapport aux autres dans une introspection tout à fait passionnante. Sur tous ces points, Majid existe et occupe même une place importante. Malheureusement, pendant les heures de cours, où il n'est question que de travail, il n'a plus beaucoup de choix. Soit il provoque certains de ses camarades par des incidents ou des insultes, soit il les distrait avec tant d'insistance que cela tombe sous le charme de les rejoindre. Ne pouvant s'intégrer au groupe par le travail, Majid en arrache autant d'éléments qu'il peut, car, et c'est bien naturel, il ne veut pas rester seul. Mamadou, lui, comprend rapidement qu'il est inutile de lever le doigt pour répondre lorsque je pose des questions trop faciles. Il me regarde alors en souriant, un peu étonné, comme s'il avait enfin une plaisanterie. Et, sans beaucoup d'enthousiasme, ne lève le doigt que si plusieurs réponses fausses ont été données. Les premiers incidents de discipline avec les quelques Majid de la classe le surprennent visiblement. Il me fixe alors ses grands yeux pour me rappeler ma réaction. Mais il s'en lasse rapidement et ne réagit bientôt plus. Il se contente alors d'attendre patiemment que le programme soit réglé en vérifiant un petit dessin sur son téléphone. Fatoumata se révèle très fragile et nécessite une pression de tous les instants pour ne pas l'oublier. Pour ne pas se laisser entraîner dans les insultes et les conflits. Elle est de plus en plus nerveuse et vulnérable et réagit parfois de façon agressive avec moi, passant prête à sombrer dans le refus de travail et de contestation systématique. Il ne faudrait pas beaucoup pour qu'elle rejoigne le groupe de ceux qui ne font rien, un groupe qui s'épaissit tout au long de l'année et qui est sans cesse en recherche de nouveaux membres. Parmi eux, il y a des enfants perdus sur le seul plan scolaire et qui n'ont donc pas d'autre choix que de s'exclure eux-mêmes. Mais il y a aussi d'autres fatumata, des élèves tout à fait capables de réussir. Ils n'ont malheureusement pas été assez forts pour ne pas céder à la tentation du jeu permanent, à la tentation de rejoindre ce groupe où l'on semble s'amuser tant. Je me dois donc d'être injuste, c'est-à-dire beaucoup plus exigeant avec certains matins qu'avec beaucoup d'autres si je veux les garder du bon côté. C'est dans la mesure de mes possibilités ce que je tente de faire tout au long de cette sixième. Il y a quelques semaines, maintenant au début du mois de septembre 2009, il se trouve que je suis à nouveau en charge de cette classe, maintenant en troisième, sans les avoir eu en cinquième ni en quatrième. Aucun n'a redoublé, et à part quelques rares départs et arrivées, la classe est restée la même. Bien que nous n'ayons plus vu depuis le mois de juin 2007, je me souviens du prénom de chacun, ou presque. Mamadou a bien changé. Dès le premier cours de son année de troisième, il s'installe seul au fond de la classe pour dessiner tranquillement. Il ne me montrera plus rien. Il y a bien longtemps qu'il ne lève plus le doigt pour répondre à aucune question. Les élèves comme Mamadou, et ils sont nombreux, je reviendrai sur ce point, peuvent faire l'actuel programme de mathématiques du collège en 2 ans au lieu de 4, et de manière beaucoup plus approfondie qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela, je le sais, je l'affirme. Dans cette classe, le résultat est qu'au bout de 4 ans, vu les interruptions de cours incessantes, vu surtout le niveau extrêmement faible que les enseignants sont contraints d'appliquer pour parvenir à une misérable moyenne appliquée par des contrôles trop faciles, Mamadou aura à peine la possibilité de survoler le programme officiel. C'est un tsumbon, certes, mais sans plus. Il s'en désintéresse totalement. Il ne représente plus rien. Et s'il n'y a plus personne avec qui les comparer, plus que carrément dénagé. Il est vraisemblable qu'il ne fasse plus tout son travail à la maison. Cela ne présente aucun intérêt pour lui et son plaisir de travailler disparu. De plus, il sait bien que dans cette classe, aucun professeur ne passera entre les rangs pour vérifier le travail, car ce professeur devait d'abord s'assurer que les élèves ont apporté de quoi écrire. Mamadou a appris à temps, à ne rien faire, à ne plus avoir vis-à-vis de lui-même la moindre exigence. Il s'est isolé, il a appris à ne plus avoir confiance en personne au collège, surtout pas en ses professeurs, qui passent le plus clair de leur temps, soit à gérer l'ingérable, soit à faire en troisième un travail de niveau de cinquième. À ses yeux, cette école n'est pas crédible, elle est juste pitoyable. Fatou Mata a suivi les exemples qu'il ne faudrait pas suivre, mais avec lesquels le collège unique l'a contraint de vivre. Elle est devenue insolente et refuse de travailler, ce qui lui donne un niveau médiocre. Mais le niveau général de la classe est si faible que même en étant exclue assez fréquemment, elle sait qu'il lui suffit de faire un tout petit effort de moment venu sur quelques contrôles pour passer en seconde générale. Elle dit toujours, mais maintenant pendant les cours, et lorsque j'arrête les ventes pour cela, elle me répond scandalisée, mais je ne fais rien de mal et je n'embête personne. Elle est devenue très, très agressive et entre facilement dans de grandes colères pour un mot, pour un regard. Pour quelques-uns, elle est devenue un jouet que l'on fait démarrer à distance par une petite insulte lancée à voix basse ou, comme ils disent, par un mauvais regard. Devenue incapable de se contrôler, elle leur répond alors par une autre insulte, cette fois à voix haute, ou même se lève pour aller à la cour. J'ai été contraint de l'exclure pour bagarre déjà plusieurs reprises depuis le début de l'année. Majid est toujours là. Il doit faire 1m80 et ressemble maintenant à un chef de bande depuis qu'avec ses deux compagnons d'infortune de 6e, ils sont parvenus à convaincre 6 ou 7 autres de les rejoindre. Par des incidents incessants, ceux-là, devenus nombreux, près d'un tiers de la classe, se livrent à une véritable compétition de saccage du courant. Il y a bien longtemps qu'ils ont compris, certains à tort, d'autres à raison, qu'ils n'apprendraient jamais rien au collège. De toute façon, maintenant, il est trop tard. Leur seul objectif est donc d'empêcher coûte que coûte les autres de travailler. J'espère ne pas avoir passé trop d'années au collège dans des périodes difficiles, 8 ans au total, donc c'est pas énorme. J'espère ne pas être atteint d'une nouvelle forme du syndrome de Stockholm, mais je ne m'en veux pas. Je les punis comme il se doit, je les empêche de mener à la collectivité, mais je ne les blâme pas, car leur volonté de créer sans relâche des obstacles au travail de la classe relève moins de la méchanceté que du dépit. On les force à être là alors qu'ils savent mieux que quiconque. Ils sont parfaitement incapables de tirer le moindre bénéfice de leur présence. Ou plutôt, le seul bénéfice qu'ils savent pouvoir en obtenir est de passer de bons moments. Ce qui est bien naturel, puisque, faut-il le rappeler encore et encore, ce sont des enfants. Un autre Majid m'a dit un jour, vous, sa classe, ce que le CR4A, c'est votre cours, c'est la garde à vue. C'était ma première année d'enseignement, mais je ne pouvais pas encore à quel point ces mots étaient justes. Bien sûr, comme tous les ministres de l'Éducation nationale imbéciles et menteurs qu'on a, on peut toujours tenter de se rassurer en pensant qu'il restera bien quelque chose de tout ce temps, de tous ces moyens, de toutes ces tentatives d'apprentissage, forcées, inadaptées, inopportunes et contre nature, mais en réalité, le peu que ces élèves savaient en arrivant, ils vont le désapprendre. Par exemple, Majid écrit maintenant plus mal que lors de ses premières semaines au collège, car au début de 6e, il pouvait s'appliquer, écrire avec attention au moins je retiens. Aujourd'hui, il n'en est même plus capable. Et qu'a-t-il appris ? Il a entendu parler de Pythagore, de Thalème, de racine carrée, mais ce ne sont que des mots de même sens. Alors on pourrait penser que si le collège n'apporte rien à beaucoup de Majid, il est inoffensif et que l'expérience devait être tentée. Mais non, le collège unique n'est pas inoffensif. Le collège unique l'a détruit. Et en arrivant joyeusement en 6e, tous ceux-là se découvrent honteux de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir. Il leur apparaît qu'ils ne sont pas à leur place. Ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire. Et ils vont vivre 4 ans d'enfer. Il leur faudra vivre l'humiliation d'être sur un plan scolaire de vrais incapables. Cela, c'est ce que leur répètent tous leurs professeurs à longueur de journée, sans le formaliser jamais, sans le dire jamais, mais en leur mettant des notes épouvantables. Pendant 4 ans, ils vont accumuler toute la rancœur provoquée par les innombrables réprimandes, les hurlements, les punitions et les exclusions à l'encontre vécues à longueur de journée. Cette humiliation et cette rancœur, ce mépris de soi-même, engendré par l'horrible image qu'on leur donne d'eux-mêmes à longueur de journée et pendant toute leur adolescence, qu'ils s'y habituent. Ils grandissent avec, ils emmagasinent, ils stockent tout le ressentiment, tout le malheur nécessaire pour fabriquer de la haine. C'est ainsi que, dévorés par un confus besoin de vengeance, ils iront bientôt brouiller la maison de leur voisin ou le supermarché du quartier et se livreront parfois gaiement à des marchands sur la voie publique. Ces élèves-là se partagent en deux catégories, ceux qui sont toujours absents et ceux qui ne sont jamais. Pour les premiers, être absent, c'est une façon de ne pas se laisser détruire par le collège. L'absentéisme, c'est leur rupture. Pour les seconds, être présent est une façon de détruire le collège en retour en rendant coup pour coup. Pour cela, le collège est un terrain d'affrontement sur lequel ils se rendent avec la volonté de faire un maximum de dégâts. Un peu plus tard, ils se rendront sur le terrain des manifestations publiques ou des émeutes avec le même désespoir qui se traduira par la volonté de détruire n'importe quoi et de frapper n'importe qui. Finalement, ce que le collège unique aura appris, c'est la venir des barbares. Revenons à cette classe et à ce mois de septembre 2009. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que je réalise que l'un de nos quatre élèves a disparu. Comment s'appelle-t-il déjà? Mol. Est-ce qu'il a déménagé? Non. Les élèves m'apprennent que l'année précédente, il a été définitivement exclu sur conseil de discipline. Devant mon incrédulité et ma surprise, il s'empresse de me donner des explications et l'histoire me revient en mémoire. Je l'avais entendu sans savoir de qui il s'agissait. En plein cours de français, Mohamed s'était soudainement levé pour aller frapper violemment Majid avec son compas. Comme s'il voulait commettre un meurtre, il avait visé la poitrine de Majid, qui avait heureusement le disque et esquivé le coup, et le compas était planté dans son bras. La blessure ne présentait aucune gravité, mais la direction avait estimé que le coupable devait être exclu dans l'heure. Un collègue m'avait raconté le conseil de discipline. Le père était resté silencieux, le bras croisé. La mère pleurait, me disait les répétitions, je ne comprends pas. Et enfin, lorsque l'exclusion définitive fut annoncée, elle accusa son fils de jeter la honte sur toute la famille. Alors, dans cette histoire, désigner le coupable, ça ressemble fort à un test psychologique. Il y a Mohamed, l'auteur des faits. Il y a Majid, la victime, coupable bien sûr de provocation et de harcèlement envers Mohamed. Il y a le professeur qui a laissé développer une situation qui a mal fini. Et enfin, il y a le ministre et sa politique qui les ont enfermés tous les trois dans la même pièce. Je vous laisse juger pour décider lequel de ces quatre-là est le vrai coupable qui mérite d'être exclu sans délai. Mon histoire s'arrête là. Puisque nous sommes réunis pour parler du collège unique, j'ai jugé utile de mettre à profit la plus grande partie du temps qui m'était offert pour vous faire entendre ce qui dégrossit dans la réalité des zones défavorisées. Le collège unique, c'est le service public qui fabrique en Majid un véritable barbare. Le collège unique, c'est le service public qui interdit structurellement à Mamadou de se diriger vers des classes préparatoires ou de très grandes écoles. Le collège unique, c'est le service public qui va faire de Fatoumata une lycéenne médiocre, caractérielle et paranoïaque. Sur lequel il faudra bien que le lycée général règle ses exigences et son niveau de tolérance, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire à différents formes. Il faut bien s'adapter à toutes les fatumatas qu'on a créées. Et enfin, le collège unique, c'est le service public qui brise un élève sérieux comme Mohamed pour en faire un garçon dangereux et dégoûté de l'école dans laquelle il allait pourtant pour le meilleur de lui-même. On peut se demander maintenant quelle est la proportion de ce type d'élèves. Il existe bien des évaluations nationales faites en 6e, mais elles ne constituent pas un outil d'analyse opportun puisqu'elles ne répertorient que des savoir-faire et des compétences. Pour des raisons strictement idéologiques, ces évaluations ignorent délibérément les capacités de chacun. En expérience au collège, j'ai 8 années dans les zones de type ZEP en périphérie de Paris, et je ne peux vous parler que de cela. De ce que j'ai vu pendant ces années au collège, je dirais qu'à l'entrée, il y a 10% d'élèves à capacité scolaire d'excellence et pas plus d'élèves inaptes à suivre un cursus général. Les 80% restants sont des Fatoumata, des Mohamed, et bien d'autres encore, je ne peux pas tous vous décrire. Tout cela sont des enfants comme les autres, non comme les nôtres, qu'il faut pour la plupart forcer à travailler, qu'il faut souvent réprimander, parfois punir. Mais chacun de ceux-là est au fond tout à fait apte et désireux de suivre tranquillement son propre chemin pour parvenir à sa propre réussite. Quand bien même elle serait de rentrer en apprentissage en fin de 5e. J'affirme que dans un environnement serein et homogène, le niveau général de cette masse de nos élèves serait nettement plus élevé. Bien qu'il ne relève pas de statistiques, mais de ma seule expérience, je voudrais revenir et insister sur ce chiffre de 10% d'élèves à excellente capacité à l'entrée de la 6e. Ils n'apparaissent pas forcément dans les évaluations, parce que moi je parle vraiment de capacité. L'élève peut ne pas avoir pris les choses, mais avoir des capacités excellentes. En revanche, d'autres apparaissent comme excellents, mais qui ne le sont pas. 10%, c'est beaucoup, et c'est même énorme. Cela représente un nombre considérable d'enfants. Alors, rêvons un peu, si tout cela avait le droit de suivre une scolarité dans des bonnes conditions, cela aurait des conséquences puissantes et profondes sur la société. Par exemple, il y aurait un nouveau ascenseur social. Par exemple, on serait confiant et on serait fier de notre service public. On stopperait net la chute vertigineuse et dramatique du niveau d'instruction. Les grandes écoles afficheraient des taux d'étudiants issus de familles modestes qui seraient un honneur pour elles et pour la France et pas une honte comme ils le sont aujourd'hui. Plus simplement, si tous ces élèves n'avaient pas l'obstacle quasiment infranchissable du collège unique sur leur route, cela mettrait sans doute un terme à la débâcle de l'école et on évoquerait même une école républicaine en vie. Aujourd'hui, aucun ou presque de ces très bons élèves ne peut survivre jusqu'à fin de troisième d'un collège unique en zone défavorisée. Le collège unique réalise ce massacre avec tant d'adresse et tant d'indifférence qu'on pourrait même se demander raisonnablement s'il n'a pas été inventé dans son seul objectif. Le théorème du collège unique a deux corollaires indissociables, la réussite pour tous et l'égalité des chances. Et si ces deux slogans sont aussi absurdes l'un que l'autre, c'est parce que le collège unique a été bâti sur un principe unique, le mensonge. L'acharnement éminemment politique et syndical du nauséeux slogan de la réussite pour tous se concrétise dans la construction par le service public de l'échec de chacun. C'est un mensonge sur l'absence de sélection, ce qu'elle se pratique maintenant sur le quartier, donc sur les origines sociales. C'est un mensonge sur les capacités des élèves qui ne sont pas et ne seront jamais uniformes. C'est un mensonge économique sur les besoins du pays et des employeurs qui ont moins besoin de diplômés que de gens capables et désireux de travailler et de se former. C'est un mensonge sur la mission de l'école qui se devrait maintenant de livrer des quotas de diplômes. C'est un mensonge sur le sens de réussir sa vie. Et c'est aussi un mensonge sur le sens vrai de la réussite. La réussite n'est pas objectivable. Et nous le savons bien, elle ne repose que sur l'amour que chacun porte à lui-même et aux autres. Enfin, c'est même un mensonge sur la nature humaine qui voudrait faire croire aux belles âmes que tout le monde peut tout à condition d'en avoir les moyens. Tous ces mensonges sont extrêmement douloureux pour les enfants qui, à juste titre, deviennent malheureux et méchants lorsqu'ils en prennent conscience. La réussite annoncée s'avérera n'être que du mépris de soi-même et de l'école, mépris dont vous voyez la concrétisation tous les jours dans les innombrables faits divers sur les relations entre professeurs et élèves. Maintenant, à propos de cette hypothétique égalité des chances, j'avoue ne pas comprendre comment il est possible de faire une telle impasse sur le réel. Soyons tous devenus fous. Les enfants nés dans des milieux populaires n'ont pas les mêmes chances de réussir ce qu'on a parce qu'ici, le milieu favorisé. Et c'est le bon sens même, ils ne les auront jamais. Ils ne les auront évidemment jamais. Parce que les conditions matérielles d'études ne sont pas les mêmes à la maison, parce que le langage à la maison n'est pas le même, parce que les motivations, les stimulations pour étudier, les exemples, les modèles à la maison ne sont pas les mêmes, et pour encore mille autres raisons déjà parfaitement connues. Au lieu d'accepter cette réalité incompressible contre laquelle l'école ne peut et ne pourra jamais rien, au lieu d'y faire face par une sélection ferme et des filières différenciées dès la fin du primaire, et peut-être même avant, au lieu de comprendre que la sélection est la seule porte vers la justice sociale et la mixité, le pouvoir politique et syndical a préféré céder à cet invraisemblable et grotesque mensonge de l'inégalité. Pour toute réclame de socle commun, pour savoir ce qu'il contient réellement, il ne faut pas consulter la documentation du ministère. Il faut se tourner vers Mamadou, Magic, Fatoumata et moi-même, et s'interroger sur ce qu'ils ont en commun à la fin de ces quatre ans. Les quatre ont d'abord en commun d'être malheureux, et ils auront aussi acquis quelques principes. Il est vain de travailler, il est vain de faire des efforts, il faut considérer son ego comme prioritaire en toutes circonstances. L'insulte, c'est la plus courante des formes d'expression, et la loi du plus fort, c'est fondatrice, et la loi fondatrice de la vie en communauté. Le voilà, le vrai socle commun transmis par le collège unique, syndrome d'une société toute entière qui ne sait plus élever ses enfants dans la vérité, et se précipite ainsi elle-même vers la barbarie. Alors les organisateurs m'avaient demandé, soulever un peu la question de ce que je pouvais proposer ou de ce qu'il y avait à proposer. Alors moi, je propose surtout rien. Parce que les adversaires du collège unique disent, quand ils se laissent aller à l'excès, qu'il est un système contre-productif, qui peut être néfaste ou qui peut avoir des côtés pervers. C'est une fameuse position pour ma part, je dis que le collège unique est la bête immonde de notre société contemporaine. La seule chose à espérer, et sa disparition soudaine et totale. En revanche, ce qu'il faut redouter le plus au monde, c'est précisément l'entreprise de sa modernisation.